scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. Ceci est la deuxième partie de l'interview de Shadow Ombre à propos de l'histoire du Nouvel Âge. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à aller retrouver sur le site www.scepticismescientifique.com. Scepticisme scientifique, il y a une barre entre scepticisme et scientifique. Allez retrouver l'épisode 472. Voilà, donc c'est la deuxième partie de l'interview consacrée à l'histoire du Nouvel Âge. Et je cède maintenant la parole à Shadow Ombre.
On va voir les différentes étapes du New Age. Alors déjà, effectivement, avant le spiritisme, il y a un proto-New Age, quelque chose qui nous prépare. Alors il y a la franc-maçonnerie irrégulière, donc il n'est pas régulière forcément, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Il y a les loges néo-rosicruciennes, c'est-à-dire qu'on s'affilie aux Rose-Croix du XVIIe siècle, sauf qu'on n'a aucun rapport avec ces Rose-Croix-là. Et puis il y a un mouvement important, c'est le mesmérisme, tu dois connaître évidemment. C'est une médecine alternative allemande. D'ailleurs, l'Allemagne, cette région-là, c'est le pays d'origine de la médecine alternative, qui est initiée par Franz Anton Mesmer au XVIIIe siècle, qui avait écrit un bouquin qui a l'air pourtant très actuel, « L'influence de la planète sur le corps humain ». Son mouvement met en place le magnétisme animal, c'est-à-dire qu'il est capable de guider les fluides pour guérir.
Et ça c'est le début de l'hypnose. Hein. C'est des formes primitives d'hypnose. Ils utilisent une sorte de baquet on devait tenir le baquet. Une technique assez particulière. Mais enfin, c'est quand même dans le fond lui qui a découvert l'hypnose, même si évidemment la théorisation qu'il en avait faite n'était pas correcte.
Bien sûr, bien sûr. Et ça va de pair avec la découverte, en tout cas la compréhension de plus en plus affinée de l'électricité, de l'atome, en fait de l'avancée des sciences modernes, des sciences dures. C'est pas encore du New Age, du néo-spiritualisme, parce qu'il n'y a pas une spiritualité vraiment qui va découler du mesmérisme. C'est avec le spiritisme que vont circuler des croyances particulières. Donc là, c'est le proto-New Age. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le New Age commence vraiment avec le spiritisme en Amérique, mais il va très vite venir en France, où il va devenir important. Et le spiritisme français, qui a quelques différences avec le spiritisme américain, va influencer le monde entier. Tu sais qui est le père du spiritisme français, je suppose ?
Kardec, je vais m'étais voir sa tombe sur la chaise.
L'instituteur socialiste, c'était son surnom. Parce qu'en fait, dans ces milieux-là, beaucoup de socialistes et d'anarchistes étaient très intéressés par tout ce qui se passait. Et Alain Kardec et tout ce qui vont fonder le spiritisme français à son époque avec lui sont dans ce milieu politique-là. Donc, c'est la croyance qu'on peut discuter avec l'esprit des morts, la réincarnation. Alors évidemment, on y voit une évolution sociale, c'est pour ça que ça va intéresser les socialistes. C'est-à-dire que si on est pauvre, c'est parce qu'on s'est mal débrouillé dans la vie précédente. Et donc, il y a une pensée évolutionniste par rapport à ça qui est particulière, mais qui est ce qu'elle est. Et le spiritisme français va être très présent en Amérique du Sud, notamment au Brésil, où il y a des écoles Allan Kardec, il y a des rues Allan Kardec, il y a des lois Allan Kardec encore aujourd'hui. Allan est l'un des 100 prénoms les plus utilisés au Brésil en honneur à Allan Kardec.
Oui, et puis il y a beaucoup d'études en parapsychologie sur les médiums qui viennent du Brésil, évidemment, parce qu'ils ont une population de médiums beaucoup plus importante.
Ouais. Oui, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance assez fun du spiritisme qui est délivré par les films, les séries, etc. Et puis on s'amuse, comme je dis, comme on a parlé, on s'amuse tous à faire tomber des verres, des tables, etc. Enfin, des tables. C'est un peu plus compliqué, moi, je n'ai jamais vu ça. Mais... ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est que les Sir Fox, à la fin de leur carrière, avouent que leur histoire, c'était une farce, c'est officiel. Et d'ailleurs, à la fin de leur vie, elles vont critiquer férocement le mouvement qui va être initié à partir de leur sensationnalisme, c'est-à-dire le spiritisme. Ça, je trouve que c'est intéressant à signaler, c'est que tout commence par une farce, Mais il y a quelque chose de sérieux qui va commencer à vraiment se mettre en place et à imprégner la société durablement. C'est donc, c'est pas la farce qui est à prendre au sérieux, c'est l'état mental de la société à l'époque qui est à prendre au sérieux, qui est prête à avaler ça et à créer une pensée par rapport à ça. L'autre mouvement de société qui va être important, c'est l'occultisme. J'en ai parlé tout à l'heure. L'un des grands phares de l'occultisme, des initiateurs de l'occultisme, c'est Eliphas Lévi, de son vrai prénom Alphonse Louis Constant, qui est né en 1810 et qui est mort en 1875. Et lui, c'est un prêtre catholique défroqué qui va passer carrément de l'ésotérisme, tel qu'on l'a défini tout à l'heure, à l'occultisme. Et il va écrire un bouquin qui s'appelle Dogmes et rituels de la haute magie, en 1854, qui va être emprunté, plagié par les Rudolsteiner, les Blavatsky, les Papus, etc. C'est vraiment un livre fédérateur de l'occultisme en général, très important. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment au New Age, il faut lire ce bouquin, par exemple. C'est un passage obligé. Mais c'est surtout Gérard Dankos, donc Papus, alias Papus, qui va créer une société, enfin, une société officielle occultiste qui n'existe quasiment plus ou qui a des avatars. C'est l'ordre martiniste en 1889 qui faisait partie. En fait, cet homme faisait partie de nombreuses sociétés. Il était spiérite et il était aussi théosophiste. L'autre grande société, c'est donc la société théosophique fondée en 1875 par Larus Blavatsky et d'autres à New York, mais surtout Blavatsky. Bon, elle, c'est un charlatan très important dans l'histoire du New Age. Quand elle a créé la société théosophique aux États-Unis, elle va très vite fuir en Inde, à Madras, où elle installera son siège, dans le quartier d'Adyar, dans l'actuel Chennai. La société théosophique a été le gros succès de la néo-spiritualité, du New Age à l'époque, moins maintenant, mais ces idées infusent le New Age, et surtout ça passe aussi par pas mal d'écoles Montessori, puisque Maria Montessori a développé une grande partie de ses idées, de ses bouquins, alors qu'elle était théosophiste, et alors qu'elle créchait même, elle habitait même à la société théosophique à Adyar. Ça, c'est important de le signaler. Il faut voir aussi, prendre une carte sur Google Maps de Chennai et voir toutes les écoles Montessori qu'il y a. Et tous les directeurs de ces écoles Montessori sont affiliés à la société théosophique. C'est assez impressionnant.
Oui, on sait que Blavatsky était enfin, une fraude parce que, là, entre autres, elle s'est inventé tout un passé où elle aurait voyagé en Orient et rencontré les fameux maîtres, comment
C'est
elle les
ça.
appelait, les maîtres invisibles, un truc comme ça.
Oui, les
Et
supérieurs.
évidemment, aucun historien n'a réussi à documenter que ces voyages auraient vraiment eu lieu. Et puis, la société métapsychique, la SPR, là, ils ont envoyé quelqu'un pour voir ses dons médiumniques, et elle avait un système de mur comme ça où elle mettait des messages. Il y avait des messages en papier qui apparaissent dans des sortes de boîtes aux lettres dans le mur, et puis évidemment c'était truqué, et donc le rapport a été extrêmement négatif. Donc même les parapsychologues de l'époque, enfin, qui s'appelaient métapsychiques à l'époque, ont dénoncé Blavatsky. Ouais.
Ben oui, il y a eu beaucoup de scandales liés à la société théosophique à Blavatsky et celui du travail de la Society Psychical Research, bon bref, la société de recherche parapsychique a vraiment était très importante et a bouleversé parce que justement il y a beaucoup de gens qui se sont désinscrits de la société théosophique à ce moment-là. Alors elle a subi enfin je veux dire, Blavatsky, elle a été très carriériste, sa doctrine a souvent changé, mais elle s'est vraiment établie quand elle est arrivée en Inde. Et elle parlait avec Sinnett à l'époque de bouddhisme ésotérique, alors que ce qui lui donnait effectivement, qui lui expliquait la réalité de l'occultisme, c'était soi-disant des mahatmas qui étaient cachés dans l'Himalaya, etc. Qu'elle a fini par appeler la Fraternité Blanche aussi, qui a été un mouvement qui s'est continué après elle, avec Deuinhoff, par exemple. Et ces fameux mahatmas, c'était, on en parlait encore aujourd'hui, c'est Moria, Kutumi ou Jawalkul, et qui communiquent avec elle donc par des biais de lettres précipitées. De ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de channeling ou de choses comme ça. La particularité de la société théosophique à ce moment-là, c'est que Blavatsky va ajouter des terminologies hindouistes. Des terminologies hindouistes qui sont fortement dénaturées, déplacées, déviées. Elle va y rajouter le concept de mal compris, de réincarnation. Et surtout, elle va créer un évolutionnisme, mais qui est quand même, par rapport aux recherches historiques et scientifiques, est quand même assez particulier. Tu connais l'histoire des sept races racines, la structure des sept races racines?
Ouais, non, ça ne me dit rien, ça.
En fait, elle va expliquer l'évolutionnisme de la vie sur Terre à travers sept grandes races racines. La première est polarienne, la deuxième est hyperboréenne, la troisième est lémurienne, la quatrième est atlante, la cinquième est aryenne, c'est notre époque. La sixième est à venir, elle se fera aux États-Unis, là ce sera une sous-race teutonique dotée de pouvoirs psychiques. Et la septième, c'est en Basse-Californie, lorsque la faille de San Andreas vraiment séparera la Californie de l'Amérique. Et formera une île à part entière. Et à partir de là, il y aura un seul gouvernement mondial qui sera dirigé par la réincarnation de Jules César. Moi, j'aimerais bien voir ça. Ça pourrait être intéressant.
C'est folklorique. Et donc ça,
Ouais.
c'est ouais, donc on est aux sociétés là, et donc c'est ça, on va arriver au Power Flower,
Pardon, oh.
au Power Flower dans ton plan, tu nous
Ouais,
mets.
on n'a pas encore tout à fait fini avec les sociétés. Ce qui est intéressant, c'est que dans chaque sous-race, dans chaque race racine, il y a des sous-races, mais bon, on ne va pas développer. En tout cas, à force de scandales, la Vatican est charlatan, la pédophilie de Leadbeater, un des proches de Annie Besant, la seconde présidente de la Société théosophique, l'avènement du Maitreya et du nouveau messie, Krishnamurti, va créer des scissions, des schismes, et c'est là qu'on va se créer notamment l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Qui va se servir de ça, de tout ça, pour enfin créer son propre mouvement. Il est très opportuniste. L'anthroposophie, donc en 1913, il ne pouvait pas accepter que la réincarnation du Christ soit un métèque tel que Krishnamurti. Ce n'est pas possible. Et lui, il va rajouter effectivement tout ce qui est christianisme, rosicristianisme, mais encore une fois, c'est très très particulier comme christianisme.
Ouais, pour l'anecdote, ça c'est marrant, je sais pas, il y a une série qui a été faite au début des années 2000, si mes souvenirs sont bons, d'Indiana Jones, la série TV, qui racontait la jeunesse d'Indiana Jones, et il y a plein de personnages historiques qui apparaissent, et il y a un épisode avec Krishnamurti enfant, je pense, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais à Ledbetter aussi, on est dans les milieux là, donc s'il y a des gens qui arrivent à remettre la main sur cette série TV, ou s'il y a un service de streaming qui le met en ligne, regardez au moins l'épisode. Krishnamurti théosophique, parce que c'est marrant de voir des acteurs avec Indiana Jones qui se promènent parmi eux, enfin version enfant, quoi, mais adolescente. Voilà, en Inde.
Ouais. Il y a aussi récemment J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui à Poudlard, à un moment donné, on étudie les œuvres de Blavatsky, quelque chose comme ça. Et ça a rendu furieux, par exemple, évidemment, les occultistes, notamment les anthroposophes, vraiment furieux, quoi. Ils ont fait des articles dessus, notamment Pierre Bercu, qui a fait un article dans un journal spécialisé adressé aux anthroposophes, où il critique violemment J.K. Rowling et Harry Potter. Pour ça, il y a autre chose. Donc, il y a plusieurs scissions, je ne vais pas toutes les raconter, mais il y en a vraiment beaucoup, et notamment aux États-Unis, celle de William Quant Judge, qui sera plus importante que celle d'Alice Bailey, la Lucy Strauss, on lui prête beaucoup de. Elle est surestimée, vraiment, je trouve. Autre société importante, c'est l'Ariosophie, qui sera représentée par la Guido von Liszt Society, Gesellschaft, plutôt en allemand, et Jörg Lanz von Liebenfels, qui vont initier l'occultisme proto-nazi. À partir de là, va se créer la société de Thulé, etc., etc. Ça, c'est très important parce qu'on pense toujours. On a tendance, avec les étiquettes actuelles, de dire c'est des gauches, hein, c'est des droites, ah non, c'est des gauchistes, c'est des hippies, ah non, c'est des gens d'extrême droite. En fait, ça n'a pas d'étiquette. Ça... C'est vraiment le nouvel de l'enfant dans notre monde. Il va vraiment aller dans tous les recoins idéologiques possibles pour essayer de créer des niches. En Allemagne et en Autriche, donc, puisque à l'époque c'était un même territoire quasiment, il y a deux mouvements qui se mettent en place, c'est le Lebensreform et le Völkisch. Le Lebensreform, c'est un retour à la terre, écolo, agricole, nudiste, végétarien, etc. Et il y a le mouvement Völkisch, qui est plutôt conservateur, qui va chercher dans les mythes païens, qu'on dit païens aujourd'hui, mais les mythes du Wotan, etc., avec Van Lys qui va créer, recréer la signification des runes, etc., qui va essayer de la retrouver, avec hiérarchie médiévale, une aristocratie, etc. Et donc, c'est toujours quand même un retour à la campagne, parce qu'il y a une fuite de l'urbanisation et du tout le matérialisme, etc., et de tout ce qui fait peur, quoi. Et le Lebensreform et le Völkisch vont s'associer, et l'assise psychospirituelle de l'époque, ce sera le théosophisme. Le théosophisme va beaucoup influencer l'ariosophie. Ça, c'est un mouvement très important aussi qu'on met de côté facilement, mais qui est encore existant aujourd'hui, très présent. On en reparlera peut-être quand on parlera des organisations alternatives qui fondent des communautés un peu fermées. Et l'autre mouvement important qu'on oublie souvent, c'est le mouvement de l'Atlantis de Paul Lecour, qui persiste jusqu'à aujourd'hui, tant bien que mal, avec notre ami Jacques Grimaud. Voilà, et donc là, effectivement, on peut passer au deuxième grand mouvement du New Age, c'est-à-dire les années Power Flower, chakra, libération de l'énergie sexuelle, dans les années entre les années 60 et 80. Ça naît parce que déjà, les sociétés sont percutées de scandales. Et puis voilà, on est dans la manifestation, dans la rébellion par rapport à la norme qu'on essaie de nous dicter. Et puis il y a la guerre au Vietnam. Et après les manifestations contre la guerre au Vietnam, il y a des communautés qui vont s'organiser. Il y a encore l'avènement de quelque chose qui est complètement matérialiste, c'est-à-dire qu'on peut atteindre les sommets spirituels grâce à un produit très particulier qui est fait en laboratoire, c'est le LSD. C'est l'époque mythique de Big Sean en Californie, Kerouac. Sur la route, la Beat Generation. Et là, on est vraiment dans le New Age Power Flower. Il y a deux grandes fondations qui vont se créer à ce moment-là. L'Institut Esalen, en 1962, qui va être une communauté fermée, où on va faire à la fois de la psychologie occidentale et de la philosophie orientale, mais encore une fois, très déviée, très récupérée à travers les mouvements théosophiques, etc., passée par le timing des syncrétismes, des sociétés, etc., avec une dose de science. On va y pratiquer la médecine alternative, le Gestalt, le végétarisme et le nudisme, donc, qui étaient déjà présents au XIXe siècle, la méditation, l'écologie, le yoga, tout ce que tu veux. Cet institut est très influencé par une personnalité de la science-fiction importante. Est-ce que tu as une idée?
L. Ronnie Barth.
Ah
Ah, ah oui,
non, c'est
non,
bien
non.
avant. C'est
Encore
Aldous
mieux.
Huxley,
Aldous Huxley, évidemment. Oui, je suis de génération avant. Ouais.
le meilleur des mondes. Qui lui était très New Age, qui était très proche de Krishnamurti. Même, alors Krishnamurti, une parenthèse, parce qu'il y en a qui disent qu'à un moment donné, il a coupé court avec cette idée que ses mentors lui disaient que c'était la réincarnation du Christ et que c'était le Maitreya, le Bouddha attendu pour tout révolutionner et amener vers une nouvelle ère. Certes, il a rompu avec la société théosophique, mais il n'a rien perdu de la culture qu'il a initiée. Il a même transmis un message. C'est pour moi l'un des premiers coachs de développement personnel de l'histoire. Et ça, je l'explique dans une série de vidéos sur Krishnamurti, d'ailleurs, que je vous recommande d'aller voir parce que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, le frère d'Aldous Huxley, c'est Julian Huxley. Et lui, il était premier directeur, c'est le premier directeur de l'UNESCO quand même. Et c'est le fondateur de la WWF. WWF. Et à travers Julian Huxley, on a un des jalons de la théorie de Gaïa, la théorie de Gaïa actuelle. Et là où c'est marrant, c'est parce qu'il a à la fois une très New Age, cet homme-là, le frère de Aldous Huxley, et il est aussi eugéniste et darwiniste, comme quoi il y a vraiment un lien entre les sciences modernes, l'évolutionnisme progressiste et le New Age. Donc l'Institut Esalen en 62, en Californie, et la Fondation Findhorn en Écosse, fondée par Eileen Cady, tu dois connaître, peut-être,
Non, ça ne me dit rien, ça.
en
Mais
1962, oui.
par contre, en t'écoutant, c'est marrant, parce que c'est vrai que comme tu brasses un peu tous les noms, etc., enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des auditeurs pour qui c'est un monde très étranger, tout ça, mais moi, j'ai des copains, même encore maintenant, et quand j'étais adolescent, c'était encore plus, qui lisent tout ça, tous ces auteurs de manière, qui dévorent tout ça. Ouais, Krishnamurti, c'est vrai, même moi, j'ai quelques livres de Krishnamurti dans ma bibliothèque, hein, donc. Oui, il y a peut-être des gens très, je sais pas, très orientés sciences dans mes auditeurs qui sont très déconnectés de tout ça, qui ne se rendent pas compte du public qui est abreuvé à ses sources, dont ses auteurs sont en fait les grands intellectuels finalement. Hein. Et ouais, et c'est vrai que moi maintenant, avec mon parcours, bon, même si je suis familier de tous ces auteurs et que je les ai lus de manière très critique, etc., j'ai du mal à me projeter dans quelqu'un qui adopte vraiment cette vision du monde et pour qui ces auteurs sont des gens de référence. Hein. C'est vrai que c'est très difficile de se plonger là-dedans hein, et de se mettre à leur place finalement.
Oui. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, Krishnamurti, c'est un maître à penser de toute la GAFA, la Silicon Valley. Ça, c'est intéressant. Ça, j'en reparlerai peut-être en conclusion de tout ça. Je reviendrai. Voilà, je suis désolé, on dit beaucoup de noms, etc. On est dans des efforts synthétiques. Bon, il y a. Je vous recommande de vous y intéresser si vraiment, voilà, d'aller voir les noms, d'aller fouiller un peu à droite, à gauche. J'en reviens à la fondation Findhorn en Écosse, qui est créée aussi en 62, au même moment que l'Institut des Allènes en Californie. Mais là, c'est vraiment au nord de l'Écosse, sur un territoire réputé incultivable. Ils arrivent à faire pousser des petits pois géants en parlant aux devas et aux êtres qu'on appelle aussi êtres élémentaux, les gnomes, les sylphes, etc. Alors, c'est Hélène Caïdi avec une partie de sa famille. Enfin, on va pas raconter l'histoire, c'est très particulier d'ailleurs. On dit qu'elle est influencée par Alice Bailey, ce qui est vrai. Mais elle est surtout influencée par Rudolf Steiner, puisqu'on fait de la biodynamie là-bas. Et elle existe toujours, elle est très importante. D'ailleurs, j'avais entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui avait fait une histoire de l'ésotérisme du New Age, qui avait dit qu'Alice Bailey était anthroposophe. Je pense que, je ne sais pas, il y a un manque d'attention, mais c'est impossible. Elle n'est pas du tout anthroposophe. Pourquoi je dis ça d'ailleurs? C'est intéressant, tiens, j'y pensais plus ça. C'est parce que si tous ces mouvements se ressemblent et empruntent plus ou moins aux mêmes doctrines, aux mêmes thèmes, etc., ils sont très concurrents. Ils se battent les uns les autres. Des fois, ils font partie d'un mouvement, ils s'en séparent pour créer leur mouvement et ils deviennent très virulents les uns envers les autres. Un peu avant la fondation de ces deux communautés, complètement New Age, hippie, etc., avec voilà, la comédie musicale Hair, voilà, le LSD, etc. Il se passe quelque chose en Californie, en 1953, de très particulier à Giant Rock, à la région le Mojave. Tu vois ce que c'est ou pas?
Oui, tout à fait, ouais.
Ouais, c'est George Van Tassel qui a vu des vaisseaux spatiaux qui seraient venus de Vénus, qui se seraient posés près de Giant Rock et qu'il aurait en plus pris dans leurs vaisseaux spatiaux. Et à partir de là, il va construire un intégraton, une espèce de bâtiment où les gens, par rapport à la spiritualité qu'il va commencer à mettre en place par rapport à tout ça, ils rentrent dans ce bâtiment, l'intégraton, ils vont se régénérer, ils vont expérimenter le voyage temporel, ils vont méditer et entrer en communication avec une personnalité très particulière dont on parle encore aujourd'hui, le commandant Ashtar Sheran. Alors, beaucoup disent que c'est influencé par Bailey, c'est faux encore. Ashtar Sheran, le nom apparaît dans la doctrine secrète de Blavatsky en 1888. Donc là, on est en 1953. Ça, c'est vraiment un jalon important aussi. Le délire d'association, oh, pardon, c'est méchant ce que je dis, l'association entre l'ufologie et le théosophisme.
Oui, moi, c'est vrai que enfin, tu l'ignores peut-être, mais c'est vrai que j'ai fait ma thèse de doctorat en psychologie sur le phénomène OVNI. Bon, moi, j'étais en psychologie et pas en sociologie, mais c'est vrai que les travaux de sociologie sur ces milieux ufologiques sont assez volumineux. Il y a beaucoup de choses qui étaient faites, évidemment, et c'est vrai que ouais, c'est toute la période des contactés, évidemment. On va dans le désert, on rencontre quelqu'un, on a une sorte de révélation religieuse qu'on va enseigner après.
C'est ça.
Et ça, bon, c'est vrai que ces genres de contactés ont un peu disparu à l'heure actuelle, même si bon, chez nous, on a quand même, enfin, c'est chez nous, il habite plus en France, mais bon, on a eu Raël, évidemment.
Oui, bien sûr. Il fait partie tout à fait de ce mouvement-là. Ouais. Avant 1953, avant George Van Tassel, c'est un truc très particulier, du coup, puisque tu en parles, on l'a plus dans la psychologie, c'est ça, tu m'as dit, de l'ufologie, c'est ça?
Oui, moi je suis un psychologue, pas un sociologue, mais évidemment j'ai quand
Ouais.
même bouquiné un peu ce que les sociologues disaient sur le sujet, mais je suis pas un spécialiste de la sociologie de ces mouvements.
Il y a quand même la thérapie brève et la psychosociologie de l'école de Palo Alto, en Californie, qui va vraiment influer tous ces mouvements-là. On est dans une recherche psychique. pas métaphysique. La métaphysique, c'est vraiment le domaine de l'ésotérique. On est dans une recherche psychique, mais surtout de thérapie du bonheur. C'est-à-dire, bonheur, c'est quand même un vieil idéal. Je sais pas, on pourrait prendre un exemple. Disons, pour avoir un exemple qui soit reconnu en France, en Occident, c'est bah, Aristote. Vivre la vie bonne, c'est ça le bonheur. Et on vit la vie bonne en partageant, en pratiquant des vertus et en les partageant avec tous. Avec l'école de Palo Alto, ça va être plutôt maximiser son potentiel en tant qu'individu et avoir du plaisir. Et tout ça va être expliqué par la science positive, de la psychologie. On va activer les traits positifs, on n'a pas parlé de la méthode Coué, mais c'est ça. Et puis il y a Martin Seligman, la psychologie positive en 1998, avec la marchandisation du bonheur, l'apicratie, qui est d'ailleurs expliquée par la sociologue des sentiments et de la culture, Eva Illouz, dans un bouquin, Apicratie, qui est excellent et que je recommande vivement. Mais je reviendrai à l'aspect psychosociologique un peu plus tard. Toujours à cette époque des Power Flowers, on a les fameux gourous indiens, dont on pourrait penser qu'ils sont partisans de la tradition hindoue, mais pas du tout, en fait. Enfin, c'est des avatars, des fakes gourous, quoi. Comme Maharishi Mahesh Yogi, le fameux gourou des Beatles, ou pour en citer un autre, et puis on s'arrêtera là pour le Power Flower, Satya Sai Baba, le charlatan pédophile avec la coupe de Jackson 5 et les pantalons pas de def. Bon, voilà, on peut citer eux, quoi, et ça ira. Mais il y en a plein d'autres, évidemment. Jusqu'à aujourd'hui, Sri Ravi Shankar fait des conférences régulièrement à la Silicon Valley aussi. On ne peut pas confondre avec Ravi Shankar, le musicien, bien sûr. Et donc, bon, on va pouvoir passer peut-être à l'autre grand mouvement du New Age. Est-ce que ça va? Pour toi, j'ai à peu près. C'est
Oui,
clair aussi.
c'est super complet, ouais, on peut franchement passer aux sectes maintenant, je suppose.
Oui. Les sectes dans les années 80-90. C'est très simple, hein, les sectes. Tel qu'on l'entend à l'époque, c'est un gourou qui a lu le New Age, qui est très connaisseur, qui a déjà éprouvé le milieu des sociétés qui existent encore ou des communautés fermées, et qui décide, de profiter d'un terreau misérabiliste pour enfermer les gens dans des croyances folles, afin de les manipuler de diverses manières, parfois les amener jusqu'au suicide collectif. C'est ce qui va marquer d'ailleurs la fin des sectes telles qu'on les entend. Il y en a de très connus, l'OTS, l'Ordre du Temple Solaire, évidemment, la Manson Family aussi, l'Église de l'Euthanasie, la Scientologie, Raël, Hare Krishna, la secte Moon, la branche dravidienne, etc. etc. D'ailleurs, à propos des suicides, les suicides apparaissent dès le spiritisme. Parce que, évidemment, tu es en contact avec des proches qui sont morts, enfin, tu penses être en contact avec. Il y a le sentiment, il y a aussi la quête. Il y a le misérabilisme. Si on commence à dire que, voilà, on est dans une misère sociale aujourd'hui et que si on meurt, on va se réincarner dans une vie meilleure socialement, bon, ben, il n'y a qu'un pas à passer finalement. Et les suicides commencent avec le spiritisme de manière très virulente à l'époque. Il y a des chiffres de sociologues, mais je les ai plus en tête. Désolé. Et là, il y a aussi, encore une fois, quelque chose qui est très différent dans les anciennes traditions religieuses. C'est que dans ces anciennes traditions, le suicide est un interdit extrêmement fort. C'est interdit de suicider, c'est blasphématoire. Dans le plan, on en est où, je crois? Je crois que, après les sectes, on va passer rapidement sur ça parce que c'est assez simple, c'est assez connu. Ouais, voilà le coaching. Ouais.
On était au coaching et médecine alternative.
Ouais, là on est en plein
Ouais,
dedans, quoi.
t'en as un peu parlé aussi déjà avec le développement personnel, hein,
Ouais, bien sûr.
coaching, développement personnel et tous ces machins-là.
Ouais, je dirais même le coaching, la psycho-holistique, la médecine alternative. On arrive. Ça, c'est intéressant, ça. On arrive à peu près à savoir combien de personnes sont adeptes de telle ou telle religion dans le monde? On fait des cartes, tant de chrétiens, tant de musulmans, tant d'hindous, etc. Vas-y, comment tu fais pour compter le nombre de New Agers? C'est impossible. Malgré le raffinement des moyens dont la sociologie quantitative dispose aujourd'hui, parce qu'il y a plein de personnes qui ont des quelques petites croyances New Age sans être forcément New Age, alors qu'il y en a qui sont vraiment dans des sociétés ou des mouvements religieux, etc. Mais c'est impossible à relever, à quantifier.
Ouais, enfin, en psychologie de la religion, on ferait un questionnaire où on ne demande pas aux
Bien
gens
sûr.
s'ils sont New Age, mais on fait un questionnaire où on évalue leurs croyances dans différentes choses. On leur demande est-ce que vous croyez en ça, 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 ça. Et puis si tu dépasses un certain score, bah, t'es New Age alors, c'est ça
Ouais, et
quoi.
bien, justement.
Mais un sondage où on demande aux gens est-ce que vous êtes New Age, ça n'a pas beaucoup de sens parce que est-ce que les gens s'identifient
Bien
tel que
sûr.
quand.
Bien sûr. Mais tu as complètement raison parce que c'est ce qui va se passer en 1987. Il va y avoir une étude dans le sens que tu as donné, dans les critères que tu as donné, qui va se faire par l'Université de Chicago et qui va paraître dans la très célèbre revue, très sérieuse revue, American Health. Et l'article va aura pour titre, pardon, Mysticism Goes Mainstream. Et les études qui sont, cette étude qui est donnée, 60 personnes, 60%, bon, j'ai du mal, excusez-moi, 67% des sondés américains ont eu une expérience paranormale, clairvoyance, perception extrasensorielle, vision ou contact avec des défunts ou des anges ou avec des extraterrestres, etc., etc. 67%, c'est énorme. C'est énorme. Et oui.
Ouais, mais enfin, en même temps, c'est la croyance au paranormal. Enfin, je veux dire, c'est l'expérience paranormale et pas forcément la croyance au paranormal. Mais chez nous,
Bien sûr.
pour les la, la, il y a eu un sondage récemment, il y a deux, trois, non, ça commence à faire 4 ans maintenant, je crois, de Science et Vie sur les expériences paranormales. Ou je sais plus si c'était sur les croyances, mais il y avait aussi un score assez important, par exemple pour les fantômes. Rien que les fantômes, ça atteignait déjà 45%, un truc comme ça. Donc, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne pense dans la population, hein, c'est
Bien
sûr.
sûr, bien sûr. Et effectivement, tu as raison de différencier les croyances au paranormal et je veux dire, la pratique du paranormal, qui est vraiment pas la même chose. Et ce sondage fait apparaître en 87, fait apparaître une chose très importante, c'est que déjà, on n'a pas affaire qu'à des gens qui sont dans un misérabilisme comme on pourrait le dire trivialement, des cas sociaux. Il y a aussi des cadres, et surtout dans des milieux très compétitifs, comme la bourse, les grandes entreprises, le cinéma. D'ailleurs, qu'il y a un véritable marché, il y a énormément d'argent. Alors, c'était déjà le cas avant, hein. C'était beaucoup d'intellectuels, de scientifiques, des philosophes, d'artistes qui étaient attirés par le néo-spiritualisme. Mais là, à partir de 87, 1987, l'économie va s'emparer du New Age et va s'en emparer de manière très keynésienne, avec une industrialisation du New Age, avec un marketing qui va être initié par celui qui va créer le Way of Life. Tu connais le way of life, le principe du way of life.
Oui.
Tu sais qui c'est qui l'a créé, ce principe?
Ça, par contre, je ne sais pas.
C'est Edward Bernays, un publicitaire connu, allemand d'origine et qui est devenu américain et qui est le neveu de Freud. Et qui est né en 1891 et qui est mort en 1995. Il a vécu 103 ans, le bougre. Et donc, le New Age va devenir un mode de vie capitalistique, c'est-à-dire qu'on va créer des magazines, des revues spéciales pour les New Agers avec les habits, les montres, la nourriture, la diététique, et on va créer un vrai marché du New Age, encore plus important que ce qui était jusqu'à présent. Et à la différence avec les sectes, on va cette fois-ci plus avoir de mouvements sectaires tels qu'on les connaissait à l'époque. On va avoir des individus précis, pas des groupes, qui vont d'ailleurs critiquer le New Age. Celui, stricto sensu, de 1960 à 1992, qui a été initié par le mouvement hippie qui s'est terminé avec les suicides collectifs dans les sectes. Et ces individus vont être à la fois des auteurs de best-sellers et des conférenciers. Là, on est vraiment dans un tournant individualiste qui influence tout le New Age, mais qui rentre aussi dans le modèle capitaliste et libéral. Et on voit des ouvrages qui sortent, comme ceux de James Redfield, La prophétie des Andes, La vision des Andes, Conversation avec les anges aussi, ou Dieu, je ne sais plus. Bon, là, peut-être best-sellers qui seront d'ailleurs distribués par Les aventures mystérieuses, Les aventures secrètes de J'ai lu en France. Il y a l'avènement de Paulo Coelho, le romancier, qui est un sentimentaliste New Age, qui passe non pas par un contexte social et historique pour exprimer ce qu'il a exprimé, mais propose une recette de bonheur individuel, en fait. Là, on est vraiment, par rapport aux communautés et aux mouvements sectaires qui s'en sont suivis, dans une. Il y a vraiment. C'est séparé, quoi. C'est séparé. Il y a Anthony Robbins, qui est une star du mouvement New Age, du développement personnel, et qui se formait à la PNL et qui lui va vraiment se faire connaître surtout par des conférences et des séminaires. Et son mot d'ordre est simple, la magie est en nous, et il va conquérir des personnes, bon, je ne vais pas détailler, mais il va conquérir des personnes comme George Bush, Bill Clinton, Lady Di, André Agassi, voilà, des personnalités, quoi.
Côté ufologique, il y a David Icke, évidemment, avec ses
Bien sûr.
reptiliens. Et parce que tu mentionnais qu'il critiquait le New Age précédent, mais évidemment, c'est parce que finalement, les gens commencent à se dire, oui, mais le nouvel âge, il n'est jamais arrivé, donc l'âge du Verseau. Donc, alors, on va donner des explications à base de reptiliens pour expliquer que les reptiliens ont empêché l'avènement de l'ère du Verseau.
Ouais, tout à fait. Et puis, autre personnage célèbre du coaching, Deepak Chopra, méditation transcendantale, rien que ça, lui, c'est un gros auteur de best-seller. C'est le best-seller en 94, c'est les 7 lois spirituelles du succès, quoi. Pff, on peut pas faire plus New Age et capitaliste à la fois, quoi.
Deepak Chopra, ses bouquins se vendent à des quantités astronomiques. Et on sait bien qu'il parle. Il y a eu des blagues parce qu'il y a des sceptiques qui avaient fait un simulateur de Deepak Chopra où ils mélangeaient juste des mots aléatoirement, style quantique, etc. Et puis, ça donnait le genre de phrase qu'il prononce dans ses conférences de manière assez.
Et toute cette histoire de coaching qui commence par des auteurs et des best-sellers, ça continue jusqu'à aujourd'hui. L'un des grands derniers succès, bon, il date quand même déjà de 97, c'est les quatre accords Toltec des Miguel Ruiz, dont on parle toujours de partout, tout le temps. Bon, évidemment, les bouquins d'Eckhart Tolle, par exemple, là. Le coaching, il vient d'abord du sport d'ailleurs, hein. Côté physique, l'importance de l'apparence, justement en Amérique et surtout en Californie. Et puis, il va passer par les écoles psychologiques, etc. Et ça va passer non seulement chez les New Agers, mais chez des individus qui travaillent dans des grandes boîtes. Là, on va faire du coaching en développement personnel. Ça va vite passer au coaching spirituel, mais dans ces boîtes, on va faire de la PNL, etc. On va faire de toi un Bernard Tapie, un winner, un gagnant. Il faut sors de la déprime et de l'échec. Tu as un potentiel en toi. Réveille-toi, sois heureux, profite de la vie, achète et puis surtout donne tout ce que tu as à donner pour l'entreprise, quoi. En fait, dès le coaching personnel, on est quand même dans le New Age. Il y a quelque chose qui est très transversal donc à tout le New Age, même depuis le début du spiritisme, c'est la médecine alternative et la psycho-holistique. Bon, l'histoire de la médecine et de la santé, elle est traversée par l'utilisation du vivant, du naturel. Et c'est pas... Les remèdes de grand-mère, on les connaît tous et la plupart, ils marchent pas mal quand même. On sait quand même les vertus diurétiques, du thym, de la sauge, etc. Enfin bon, il y a des choses qui marchent à n'en pas douter et la science commence par là aussi, notamment la science de la médecine. Il y a encore une fois au 19e siècle une coupure radicale qui va se faire. Au 19e siècle, la médecine devient vraiment mécaniste, selon le concept philosophique matérialiste dont Descartes est l'un des plus grands représentants, et qui est opposé au concept vitaliste, qui est représenté par Bergson par exemple, et qui dit oh non, c'est pas possible, l'homme n'est pas qu'une machine et n'est pas réductible aux lois psychochimiques. Or, ce sont quand même deux conceptions occidentales qui utilisent la science pour se démontrer, ce qu'on ne fait jamais en Orient et dans l'ésotérisme. Tout ça, c'est... Le vitalisme va s'étioler petit à petit, mais va être récupéré par le New Age. Son but, c'est de... La médecine qui va être issue du vitalisme, c'est de s'occuper aussi bien du corps et de l'esprit, avec, comme je l'aurais dit et je le répète encore une fois pour que ça rentre bien dans les têtes, avec une démonstration qui se veut matérialiste. La médecine alternative va emprunter aux médecines anciennes, mais aussi à celles de toutes les contrées, en Chine, chez les chamans, tout ce que tu veux. Encore une fois, elles s'occidentalisent, c'est-à-dire qu'il y a des emprunts qui sont dénaturés et coupés de la tradition d'origine, du syncrétisme et de la démonstration scientifique. Moi, je suis effaré de voir que la propension du yoga en Occident, le yoga, quand tu es dans la tradition hindoue, tu es dans une voie très particulière de la tradition hindoue, le Hatha Yoga. Tu as un maître qui a été initié par des maîtres, etc. Tu es choisi, c'est-à-dire que c'est encore très sélectif. Et surtout, c'est qu'au bout de 6-7 ans que tu as le droit, que le maître te donne le droit de commencer à faire quelques exercices de yoga. Aujourd'hui, c'est une sorte de gymnastique douce, et qui est complètement enrobé de miel pseudo-spirituel avec de l'ayurvédique, avec ce qui est en soi, avec surtout c'est une ancienne tradition indienne, etc. Vous comprenez? Non, c'est tout ce qu'on pratique quasiment. Hein. Je fais une généralité, il y a bien sûr des exceptions. Mais le yoga, par exemple, c'est un exemple de médecine alternative complètement dénaturée. Donc, ça naît vraiment en Allemagne, ces médecines alternatives, qui, à différencier de la médecine naturelle, c'est Mesmer, dont on a parlé tout à l'heure, magnétisme animal, qui est déjà quelque part quand même dans l'occultisme, et qui est précurseur de la psychothérapie. Il y a trois figures importantes. Et trois médecines importantes, c'est l'homéopathie de Samuel Hahnemann, évidemment, néo-franc-maçon. Quand je dis néo, c'est parce que c'est des francs-maçonneries irrégulières et nouvelles qui pullulent à cette époque, à son époque, et passé par plusieurs sociétés secrètes néo-rosicruciennes à son époque. Et d'ailleurs, quand on lit l'Organon, son ouvrage de référence, la matière qui est réduite dans diluée au maximum dans l'homéopathie, ce qui reste, c'est un potentiel spirituel. Donc, il faut toujours rappeler que l'homéopathie, c'est quelque chose de lié, c'est New Age, c'est-à-dire la science et la croyance, la nouvelle croyance. Il y a la chiropraxie de Daniel David Balmer, qui est canadien. Et cette médecine, son concepteur déclarera qu'il a reçu de l'autre monde quand même. Et puis il y a l'ostéopathie d'Andrew Steele, qui est un Américain, qui est un membre de la New Thought, la nouvelle pensée, l'auto-guérison. Il dira d'ailleurs que le corps est la pharmacie de Dieu. Je ne dis pas que tout ce qui vont pratiquer ces mouvements sont des New Agers. Je ne dis pas qu'il n'y a même pas d'intérêt dans ces médecines-là. Je ne suis d'ailleurs pas un spécialiste pour moi pouvoir m'exprimer et dire qu'il y a de l'intérêt ou pas. Ce n'est pas mon domaine. D'ailleurs, si tu as regardé mes vidéos un petit peu, je ne parle jamais, je n'utilise jamais d'arguments scientifiques dans ce que j'explique. Je vais vraiment dans la doctrine et dans l'histoire et dans les évolutions, etc. Ce qui va vraiment être New Age, c'est par contre l'apparition de la médecine holistique.
Juste une seconde pour
Ouais.
les thérapies manuelles là, que tu as mentionnées. C'est vrai que Richard Monvoisin, qui est un sceptique qui est très célèbre, a écrit un excellent ouvrage. Donc, si les auditeurs veulent plonger là-dedans, ça s'appelle Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles de Richard Monvoisin et Nicolas Pinceau. Et là, il détaille les origines des différentes thérapies manuelles. On peut voir que c'est ce que tu as un peu brièvement mentionné là, que certaines thérapies manuelles ont des origines très, très bizarres.
Oui, tout à fait. Oui. En tout cas, la médecine holistique, voilà, j'en étais là. Holistique, c'est holon en fait en grec, la totalité. C'est une médecine qui est occidentale, même si elle se pare des vertus taoïstes, ayurvédiques ou tout ce que tu veux. C'est encore à la fois récupéré, dénaturé, c'est des emprunts. Il faut vraiment aussi que ceux qui s'intéressent à ça, notamment dans le milieu sceptique, zététique, il faut fasse vraiment la différence entre ce qui est création, emprunt et dénaturation. C'est très important parce qu'on est vraiment dans deux domaines qui sont différents. Et la médecine holistique, elle est surtout mise en avant à l'époque par les adventistes du septième jour. Ce groupuscule chrétien protestant très vivace aux États-Unis au milieu du 19e siècle. Il y a l'AHMA, l'American Holistic Medical Association, qui va se créer et qui va reconnaître à un moment donné comme institut officiel l'ARE Clinique de Phoenix. Celle de Edgar Cayce, on pourrait dire que c'est pour le coup un mystique presque, qui aurait vu un ange à 13 ans et qui lui a parlé jusqu'à la fin de sa vie. Et il va créer sa médecine et cette spiritualité qui va accompagner la médecine. C'est un mélange de Bible et de mémoire akashique de Blavatsky. Il croit évidemment à la réincarnation. Évidemment, ce n'est pas un mystique, c'est un occultiste. Autre médecine alternative importante, c'est la chromothérapie de Dinshaj Pastanji Gadiali, qui est un Indien, mais qui est en fait un Indien occidental, puisqu'il va très vite s'installer aux États-Unis et il va faire tout son business aux États-Unis. Il est le père de la guérison par les couleurs, pardon, et surtout la lumière. Il faut signaler quand même qu'il était membre de la société théosophique dès ses 18 ans, c'est-à-dire en 1891. Bon. Et évidemment, tout ce qui va continuer, notamment des grandes figures de la chromothérapie comme Corinne Ellin, tout ce qu'elle va dire, elle s'en revendique d'ailleurs, c'est inséparable du milieu théosophiste auquel elle se rapporte elle-même. Il y a des anthroposophes aujourd'hui qui travaillent sur la lumière aussi, notamment un dont je ne me rappelle plus le nom et qui dit qu'il se nourrit de lumière. Bon, c'est tout le mouvement pranique hein, qui a été à la mode il y a quelques années, qu'il a encore un petit peu aujourd'hui, et qui ne se nourrit que de lumière et qui ne mange plus de nourriture solide depuis 30 ans. Et ce mec-là, ce monsieur, pardon, est quand même été, parce que je crois qu'il est en semi-retraite, était haut placé dans l'industrie des médicaments anthroposophiques, notamment de Velleda. Bon. Il y a la naturopathie qui est née en Allemagne suite à l'influence de l'hygiénisme et du moins du mouvement Lebensreform, et qui va vite être récupérée par le théosophisme. Et puis il y a le Reiki, pour prendre un exemple de médecine alternative qui apparaît comme orientale. C'est Mikao Usui qui l'a créé au Japon. Il est né en 1880 et il est influencé par un bouddhisme Tendai et par la psychologie, notamment, qu'il va étudier à l'université. Et surtout, dans ses études, il va découvrir Mesmer. Et il va faire un mixte entre tout ça, là, et ça va être encore un syncrétisme qui va s'expliquer de manière scientifique. Il va utiliser un concept métaphysique oriental qui est le qi, et il va lui donner des explications scientifique tout en gardant un côté mystérieux par l'imposition des mains, un truc magique. Il y a le mouvement végétariste, qui est quand même une médecine alternative, puisque c'est une façon de soigner son corps, et donc son âme, ou son esprit, puisque pour les occultistes, les deux sont liés. Alors en même temps, il y a un mouvement végétaliste qui va se créer par l'hygiénisme, l'antispécisme. Et puis par les protestants encore, les adventistes, etc., les mormons. Il y a une société qui va s'appeler en Angleterre la Vegetarian Society, qui va être récupérée en Amérique, qui va s'appeler l'American Vegetarian Society. Et puis, c'est surtout les adventistes du septième jour encore qui sont très présents. Mais par contre, la société théosophique va reprendre tout ça aussi, évidemment, et vont mener le végétarisme très loin. Ils vont le porter mondialement. Il y a encore une fois dans ce mouvement-là des considérations diététiques, sociales, scientifiques avec la réincarnation théosophiste. Et enfin, il y a la psychologie alternative, la psychologie des profondeurs, elle doit beaucoup, mais pas seulement au mesmérisme quand même. Notamment à Sigmund Freud, pas directement à lui, pardon. Mais Sigmund Freud, il avait parmi ses élèves quelques-uns qu'il appelait ses mystiques. Lui-même les appelait ses mystiques. Il y a Wilhelm Reich, qui est à l'origine de la théorie de l'énergie orgone universelle, de nature sexuelle, une tension électrique. C'est en fait, encore une fois, une nouvelle incarnation du mesmérisme animal, finalement. Et ça va jusqu'aux dérives de cette psychologie de la potentialité humaine, qui mènera, par exemple, mais pas seulement, à la scientologie, qui est un mixte entre les extraterrestres, la science et la médecine. Quand on commence à être. Les gens de la scientologie viennent nous voir, on nous dit tenez vos mains, avec vos mains, tenez cet appareil, vous allez voir l'aiguille bouger, et ça veut dire qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas bien, vous êtes malade. C'est comme ça qu'on va. C'était un des outils de propagande, ça l'est toujours d'ailleurs, de la scientologie. La psychologie alternative, elle passe par un pilier très important, c'est Carl Jung, qui est vraiment un pilier de bascule essentiel, un point de bascule essentiel, qui était l'élève le plus brillant de Freud, et qui lui va passer de l'inconscient individuel à l'inconscient collectif. Et au fur et à mesure qu'il va étudier les inconscients collectifs, c'est-à-dire les archétypes des traditions, des traditions, des mythes, etc., d'un point de vue scientifique toujours, il va finalement se laisser séduire par ce qu'il étudie, il va être très New Age d'ailleurs à la fin de sa vie. Pour passer vite, celui qui va être la continuation de cette psychologie alternative, c'est Roberto Assagioli. Un Italien d'origine juive, très, très apprécié de Freud, en qui il plaçait de grands espoirs, mais qui était théosophiste. Bon, sa mère était membre de la société théosophique, bon, ça ne veut pas dire que lui, forcément, mais bon, lui, il était très proche de Bailey, il l'a côtoyé, etc. Et lui, il va dépasser l'inconscient collectif de Jung pour en arriver au soi transpersonnel, le soi lié au divin, expliqué par la science de l'inconscient, avec beaucoup de syncrétisme. Et on va arriver évidemment à la psychologie humaniste, pardon, d'Abraham Maslow. Je pense que tu dois connaître toi tout ça.
Oui, la psychologie, je connais mieux, effectivement.
Avec le dépassement de soi, la psychologie transpersonnelle, Abraham Maslow va expliquer l'expérience des sommets que l'on peut connaître par la méditation, les phénomènes médiumniques et parapsychologiques. C'est donc l'école de Palo Alto aussi, qui rajoute la cybernétique et qui est à l'origine de la thérapie brève et de la PNL. Pour moi, là, on est en plein New Age encore. Et on arrive aujourd'hui jusqu'à la méditation de Maharishi Mahesh, des Beatles, le gourou des Beatles, qui est aujourd'hui promu par David Lynch. Et cette méditation de pleine conscience, qu'on appelle aussi méditation laïque, pour moi j'ai du mal à saisir le truc, mais bon, voilà, ça s'appelle la méditation laïque, et qu'on retrouve par exemple promu dans une série d'articles il n'y a pas si longtemps dans Le Monde, à travers des témoignages de sportifs par exemple. Et le but, c'est le dépassement de soi physique, le bonheur sur Terre, on est toujours quand même dans toutes ces médecines alternatives, dans une quête individualiste. La médecine alternative est ouverte à tous, elle est promue capitalistiquement, c'est un marché, et elle est expliquée et démontrée scientifiquement. Alors que la méditation hindoue ou les contemplations chrétiennes, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas pour tous. Il y a l'initiation, il n'y a pas les mêmes buts. Donc ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, je parlais de best-seller. Bon, dans la médecine alternative, évidemment, il y en a aussi des best-sellers, mais ça passe aussi par Internet. Et puis en plus, il y a une sorte de bêtise systémique qui va s'installer, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être soi-disant guéris par telle pratique comme le FT, la sophrologie, caïssédienne ou l'hypnose ericksonienne, etc., et qui vont eux-mêmes devenir coach et vont créer des cabinets et des chaînes YouTube, etc., etc. Et donc ça va, ça, je veux dire, ça évolue comme ça. Avec Internet aussi, il va y avoir le rôle du complotisme. Le complotisme, c'est ancien, et c'est très lié au New Age d'ailleurs. Il y a eu une résurgence évidemment en 2001, dans les années 2000, au début des années 2000. Et ce qui est très drôle, c'est que dans le complotisme, on critique les aspects New Age à travers les sources New Age. Alors ça, c'est quand même assez drôle. Par exemple, Alice Bailey, tiens, qui a fondé la Lucis Trust, qui est à l'ONU, c'est le nouvel ordre mondial. Les gouvernants le savent, ils appuient, ils acceptent. De toute façon, ils sont en contact avec des reptiliens. Même d'ailleurs, certains de ces gouvernants sont des reptiliens, comme Hillary Clinton ou la reine Elisabeth II, sauf que toutes ces références aux reptiliens viennent de la théosophie, du post-théosophisme. Et donc, en fait, les complotistes critiquent, enfin, font du complotisme anti-New Age alors qu'ils utilisent des références New Age. Je ne parle même pas des Illuminati, quoi. Donc on est encore une fois dans une dissonance et il y a quelque chose de très ignare, même si le problème du complotisme, c'est qu'il n'est pas assez complotiste, dans le sens où il ne va pas aller chercher vraiment sérieusement des histoires sérieuses qui existent, puisque les complots et des affaires, elles existent, des scandales, il en éclate, des problématiques géopolitiques, il y en a à foison. Et ce n'est pas des gens qui sont... Complotisme, ce n'est pas des gens, pour reprendre Karl Popper, ce n'est pas des gens qui sont unis et qui vont diriger le monde, etc. Mais... Effectivement, ce sont des affaires, c'est le milieu des affaires. Voilà. Les complots existent, c'est sûr. Je ne sais pas, peut-être que je... Ça
Non,
va
je pense
là?
que c'est assez consensuel. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Je crois que la grande majorité des sceptiques acceptent de dire que les complots existent, c'est les théories de la conspiration qui n'existent pas, mais évidemment, ce n'est pas la même chose, quoi. Et c'est souvent le problème, c'est que les complots, on les découvre a posteriori, quand ils ont eu lieu,
Bien sûr.
etc. Tandis que les théories des complots, c'est des fantasmes qui sont mis sur Internet, mais on ne trouve jamais de preuves de leur véracité. Là, ouais, non, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde.
Ça va. En tout cas, le New Age va fleurir à nouveau dans le sillon de la pseudo-dissidence, les soraliens en France et en Amérique, c'est Alex Jones. Il y a des personnalités qui vont être mises en avant et qui sont une mixture de complotisme, de lanceurs d'alerte, d'éveilleurs, de réveilleurs et de guides de soins alternatifs survivalistes. On a parlé de Jacques Grimaud, par exemple. Mais il y a Casasnovas, évidemment, qui est lancé véritablement par le site Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. C'est à partir de là qu'il va commencer vraiment à toucher un large public. Lui, clairement, il cherche vraiment à faire de l'argent. Hein. Lui, c'est un businessman. Il emprunte aux bonimenteurs des marchés et aux vendeurs de produits miracles comme on en voyait dans les foires du Far West. Tu vois, les mecs, il avait des étals. J'ai un produit miracle et puis je peux guérir telle maladie. Il y a un éclopé qui arrive au milieu, qui boit et puis qui guérit et tout le monde achète. Et puis il faut vite se barrer parce que sinon on va découvrir la supercherie. C'est
Je
un
me
peu
rappelle
ça.
du snake oil, de l'huile de serpent, c'est ça,
Ouais, c'est
les
ça.
vendeurs de snake oil. Je le traduis généralement par de la poudre de perlimpinpin, des
Tout
vendeurs
à
de poudre.
fait. Alors son crudivorisme, pardon, puisque pour ceux qui ne le savent pas quand même, bon. Casasnovas, il a la prétention de guérir les gens physiquement et intérieurement par le fait de manger des légumes et des fruits crus et souvent des jus. Son crudivorisme ne vient pas de n'importe où. Il vient de l'Institut Hippocrate aux États-Unis, où il a lui-même fait des stages. Cet Institut Hippocrate, en fait, voilà, il y a un nom très sérieux. D'ailleurs, ça va souvent se faire des académies, des instituts, c'est des noms très scientifiques qui sont donnés. Cet Institut Hippocrate va être créé par Anne Wigmore, qui est lituanienne, et qui va émigrer aux États-Unis, qui va créer la Rising Sun Christianity, la chrétienté du soleil levant, près de Boston, et qui deviendra ensuite l'Institut Hippocrate. Ils vont carrément acheter un territoire, etc. Bref. Elle est influencée pardon, par un monsieur qui s'appelle Edmond Bordozelecki, qui est un Hongrois, qui va trouver un évangile soi-disant apocryphe dans les archives secrètes du Vatican. Voilà, les catholiques l'auraient laissé entrer dans les archives secrètes du Vatican, bien sûr. Et il va trouver donc un texte où Jésus et les Esséniens étaient végétariens et mangeaient cru, et que c'était même quelque chose qui était enseigné par Jésus pour les chrétiens. C'est là vient le crudivorisme. L'autre cofondateur de l'Institut Hippocrate, en tout cas qui était proche de Anne Wigmore, c'est Victor j'ai toujours du mal à le dire, Kulvinskaus, qui est un lituanien aussi, né en Amérique. Il est carrément lui ministre de l'Église essénienne ancienne et moderne et de l'ordre essénien de la Rose bleue. Voilà. Et on est complètement dans un truc New Age. Alors, Casasnovas, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas dupe de tout ça. Il va puiser dans tout ce qu'il peut. Et il va essayer de se faire du fric, clairement. Et puis, je pense qu'il y a de l'ego aussi. Mais quelqu'un qui était très proche, très influencé par l'Institut Hippocrate et puis par Anne Wigmore et son compatriote et sa comp son et Victor Kulvinskaus, pardon. C'est à la chaleur, évidemment, que le bonheur passe par la santé. Et les vaccins, c'est mal, etc. Bon, bref. D'ailleurs, Casasnovas est sur le point de fonder une communauté dans un village, avec une école, etc. Tu le sais, ça, non?
Non, je n'y connais, je ne le suis pas tellement, mais c'est, enfin, oui, évidemment, je le connais de réputation, mais je connais mal ce qu'il fait, en fait. Ah ouais, donc il est vraiment dans une optique un peu nouveau mouvement religieux, alors s'il veut carrément fonder une communauté.
Ben ouais, là, on arrive à un point où je vais plutôt parler de manière transversale des communautés, de l'organisation, des organisations sociales alternatives. Et Casasnovas, voilà, s'y met aussi. Là, on est vraiment dans l'actualité avec les coachs et ces communautés-là. Alors, ces communautés, ça a toujours existé. Les communautés coupées de la société, c'est une histoire longue, complexe et d'ailleurs assez fascinante. Les communautés qui étaient coupées de la société, bon, ben voilà, les monastères, les ashrams, etc., etc. Mais c'était d'un point de vue religieux, seulement religieux, avec une recherche du salut, et c'est tout. Rien à voir avec la communauté New Age. Et les organisations sociales alternatives vont commencer vraiment avec ce qu'on appelle les phalanstères. Tu connais les phalanstères?
Oui, ça non plus, non, ça ne me dit rien.
Les phalanstères du socialiste Charles Fourier, dans lesquels on trouvait des anarchistes, ce sont carrément des petits bâtiments, voilà, des petits bâtiments qui sont associés et dans lesquels on va expérimenter toutes les nouvelles thèses psychoscientifiques pour un nouveau vivre ensemble dans des bâtiments, dans une communauté fermée, avec l'agriculture évidemment, etc. Mais surtout un motif important, une expérimentation nouvelle, qui est une nouvelle forme d'organisation sexuelle, c'est-à-dire que c'est marrant parce qu'il est socialiste, le gars. Les hommes sont mariés à toutes les femmes du phalanstère, donc il peut avoir des relations avec toutes les femmes du phalanstère. Et il y a toute une organisation sexuelle qui va s'organiser à partir de là. En tout cas, voilà, ça commence vraiment là. Ce qu'on peut retenir de ces mouvements d'organisation sociale alternative, c'est qu'il y a une recherche d'interdépendance, de contact avec la nature par l'agriculture. On est vraiment dans l'écolo-spiritualité. Il y a beaucoup de choses qui sont très très vite empreintes au théosophisme des socialistes. Beaucoup, beaucoup s'y mettent.
Bon, le contrôle de la sexualité, c'est quand même un des critères assez pour tous les nouveaux mouvements religieux et même les anciens mouvements religieux.
Bien sûr.
C'est les religions et les nouvelles religions contrôlent la sexualité de leurs membres. Ça, c'est. Ouais, donc, enfin, ça montre qu'on est dans une forme de religiosité, clairement aussi, dans ce genre de
Mais
communauté.
bien sûr. La différence, encore une fois, c'est que c'est maintenant à expliquer scientifiquement. Dès les phalanstères, c'était expliqué scientifiquement et socialement, etc. Il n'y avait plus de repères religieux extra-humains. L'un des plus importants, l'une des plus importantes communautés alternatives, c'est Damanhur, dans le Piémont, qui est fondée en 1976 avec une vingtaine de personnes. Et aujourd'hui, il y a 1 millier d'habitants dans cette communauté. Il y a la communauté de Christiana, qui est périphérique à Copenhague, qui est assez célèbre quand même. Mais il y a un véritable modèle qui est le Monte Verita, c'est près d'Ascona, en Suisse, qui est fondé au début du XXe siècle par des théosophistes. On y pratique le nudisme, le végétarisme, etc. C'est fréquenté par de nombreux théosophistes, dont Alice Bailey, Rudolf Steiner aussi, des occultistes, des anarchistes et des partisans du retour à la nature, Lebensreform. On a toujours tendance à dire que ce sont des gauchistes, etc. Mais on oublie encore le côté völkisch, le côté identitaire, fort. Il existe. Il y a des identitaires païens qui rachètent des villages en France. Des villages verts pour blancs pure souche. C'est le cas de Mouron-sur-Yonne, près d'Auxerre en 2009. Ils mettent en place des villages comme ça qui sont fermés avec des représentations aristocratiques médiévales, des grades, etc. Une spiritualité New Age païenne avec un retour à l'ariosophie, aux runes, une sorte de christianisme très dur, mélangé toujours avec des origines teutones, etc. Et il y a des communautés identitaires qui se créent aujourd'hui, autant que quasiment que des écoles et villages de type éco-spirituel. Mais toujours, ces éco-villages produisent des explications scientifiques. Et les plus grands représentants aujourd'hui, ce sont Pierre Rabhi, les collapsologues, une partie des collapsologues, les colibris. Dans le groupe des Verts, il y en a beaucoup, mais pas seulement, hein. On fait appel à, dans le mouvement New Age, et notamment chez les anthroposophes, beaucoup à Nicolas Hulot pour qu'il se présente aux prochaines présidentielles. Évidemment, Nicolas Hulot et sa fondation sont très liés aux anthroposophes. Je ne vais pas détailler, mais c'est un fait. Et d'ailleurs, on en arrive pour moi à ce qui est l'actualité du New Age. Évidemment, c'est tout ce qu'on vient de dire, le coaching, les mouvements communautaires alternatifs. Pour moi, c'est plus l'anthroposophie. Et ce qui est intéressant, c'est que le Lebensreform et le Völkisch, les anciens mouvements du 19e siècle de retour à la Terre, de gauche et de droite, on les retrouve aujourd'hui. Des éco-villages ou des villages identitaires païens, et l'assise philosophico-spirituelle qui était à l'époque le théosophisme est aujourd'hui l'anthroposophie. Pour moi, c'est la société la plus ancienne et qui existe encore aujourd'hui, la plus active, très active, avec des branches, des associations, veux-tu en voilà, ils sont très très actifs, et ça, il faut le reconnaître. C'est l'une des plus riches, et par rapport à la scientologie, par exemple, qui est très riche et qui est très connue, l'anthroposophie pratique beaucoup plus la dissimulation. Et là où c'est très fort en France, c'est que on avait une espèce d'image de sagesse il y a quelques années qui était l'abbé Pierre. Aujourd'hui, c'est Pierre Rabhi quand même qui est quand même anthroposophe. Et il y a Françoise Nyssen, surtout Françoise Nyssen, qui est devenue ministre de la Culture, l'éditrice d'Actes Sud. Qui encore a fait un article dans le JDD et qu'elle ne comprenait pas pourquoi on la traitait d'anthroposophe, alors qu'elle vient de créer une université du domaine du possible à Arles. Et dans son équipe, il y a des anthroposophes, des pointures de l'anthroposophie dans le domaine de la science. Donc, elle sait pas, mais par contre, elle ne sait pas toujours ce que c'est que l'anthroposophie. Bon, ok, il fallait oser. Voilà, après, on ne peut pas dire quoi que ce soit sur le futur du New Age, on ne sait pas ce qui va se passer. Je ne suis pas prophète. Il y a peut-être des tendances qui se dégagent, mais je ne sais pas du tout.